et par actualité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2017 et Clotilde Saï vous présente sur Canal M les paractualités du jour avec, en titre, le Raplic dénonce. La toute nouvelle terrasse de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, ne sera pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. À Toronto, les taxis adaptés boudés par les clients. Une première entrevue avec Gaëlle Ouellette, directrice du Regroupement québécois des maladies orphelines. La CAQ et le Regroupement des maladies orphelines du Québec, la RQMO, et réclament une stratégie nationale sur les maladies rares. Également à l'émission, Jean-Eudes Bergeron, attristé, c'est celui qui a donné le nom à la maison en ce moment dont on parle beaucoup, la maison Jean-Eudes Bergeron, qui risque peut-être de fermer ses portes. Et puis à Rimouski, un service offert depuis longtemps, un service de taxi, mais toujours méconnu. Une autre entrevue avec cette fois-ci Marie-France Baudry, fondatrice du groupe Parents pour toujours. Ils sont au bout du rouleau, ils réclament toujours le soutien du gouvernement. Également, les enfants peuvent s'amuser au parc de Sacha à Lorignal, dans l'Est ontarien, et un magazine français, un nouveau magazine pour les aidants qui s'appelle simplement « Aider ». Alors, la toute nouvelle terrasse de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, ne sera pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. C'est ce qu'a appris aujourd'hui le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le Raplic. En fait, nous avions des doutes depuis quelques semaines, mais des rumeurs circulaient à l'effet qu'elle le serait peut-être. Alors, on a attendu jusqu'à aujourd'hui, grogne Linda Gauthier, présidente de l'organisme. Elle l'a appris de l'aveu même d'une dame à l'administration. Cette dernière a été très claire. La terrasse de l'ITHQ rencontre les standards du code du bâtiment. D'ailleurs, la ville de Montréal nous a octroyé un permis comme tel. Le Raplic, comme avec des militants, se sont rendus sur place et a rencontré 4 membres de la direction, dont cette dame, et ils ont confirmé que la terrasse ne serait pas accessible aux personnes en situation de handicap. La raison invoquée, la sécurité. Il apparaît que des gens d'affaires auraient demandé à ce que l'ITHQ ait une terrasse afin que les étudiants de l'Institut puissent être formés au service en terrasse, comme si les personnes en fauteuil roulant devenaient un danger pour eux. Le Raplic réclame la mise en accessibilité immédiate de la dite terrasse dans les 10 jours suivants, à défaut de quoi ce dossier sera judiciarisé. Nous avons maintenant la preuve irréfutable que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec considèrent réellement les personnes handicapées comme des citoyens de seconde classe, fulmine Laurent Morissette, qui est trésorier du Raplic. À Toronto, les taxis adaptés boudés par les clients, d'après un texte de Catherine Brulotte. Murtuza Gower travaille entre 12 et 14 heures par jour, 6 ou 7 jours par semaine. Il se sent pris au piège dans son taxi. Après 15 ans sur une liste d'attente, il a obtenu un permis de taxi adapté en 2014. À ce moment-là, le conseil municipal avait comme projet de convertir l'ensemble de la flotte de la métropole et ne délivrait que ses permis conditionnels de véhicules adaptés de 2 ans. Le projet a été abandonné en 2016 après qu'un tribunal ait jugé que le délai envisagé pour la conversion de tous les taxis en taxis adaptés jusqu'en 2024 était déraisonnable et injuste envers l'industrie. M. Gower a l'impression d'avoir été floué. Son véhicule a coûté 60 000 $, soit 2 fois plus qu'un taxi régulier. Il consomme plus d'essence qu'une berline et les primes d'assurance sont plus élevées en raison des modifications apportées pour le rendre accessible au fauteuil roulant. Mais en plus, selon lui, les clients préfèrent utiliser les taxis traditionnels plus confortables. Le président de l'association qui représente les chauffeurs de taxi de la métropole, Sajid Moudal, croit que Toronto compte trop de taxis adaptés pour les besoins des personnes handicapées. Il cite l'exemple de la ville de Montréal qui dispose de 219 taxis adaptés, ce qui représente environ 5% de la flotte totale. À Toronto, ces véhicules représentent 13% de la flotte de 5206 taxis. Le conseiller municipal Jim Karganis croit que Toronto devrait conserver tous ses taxis adaptés, mais affirme que la métropole doit trouver une solution pour rendre l'industrie rentable. Il propose d'étudier la possibilité de réduire les frais des chauffeurs de taxis adaptés ou de les subventionner. Jean-Eudes attristé, Jean-Eudes Bergeron, c'est un article de Dominique Gobeil dans la presse.ca, avait reçu comme cadeau le fait que la maison d'hébergement porte son nom, c'était en 2014. Celui qui prête son nom à la maison Jean-Eudes Bergeron, qui héberge une clientèle en lourde déficience physique et qui a fait la manchette au cours des dernières semaines, s'attriste de voir le manque de financement de l'établissement et l'incertitude qui habite la vingtaine de résidents quant à l'avenir de leur milieu de vie à Alma après l'été. Créée dans les années 90, la coopérative de services à domicile de Lac-Saint-Jean a décidé de donner le nom de son fondateur lorsque son projet de ressources d'hébergement intermédiaire pour les personnes en perte d'autonomie s'est concrétisé. Il y a quelques années, cet hommage, Jean-Eudes Bergeron l'avait reçu comme un cadeau inattendu. J'ai établi une comptabilité rigoureuse à la coopérative et j'ai laissé ma place comme président après 5 ans, raconte-t-il en entrevue téléphonique. Lorsqu'on a une bonne entreprise, c'est bien qu'elle crée des petits. C'était évident que la maison était un bon projet quand on m'en a parlé, c'est pour ça que j'ai accepté qu'on y mette mon nom. Tout l'argent nécessaire pour la construction avait été amassé. Le problème avec les frais d'exploitation présentement, c'est que la coop a reçu moins de subventions que prévu. Elle est pourtant très bien organisée. Pour avoir été le directeur général de la Fédération régionale des caisses des jardins, M. Bergeron s'y connaît côté administration et finances. Ça m'a fait de la peine de voir que les résidents pourraient être obligés de déménager. Là-bas, ils sont heureux et bien servis et ils se débrouillent. Ça m'encourage de voir que les dirigeants commencent à sympathiser avec la cause, confie Jean-Eudes Bergeron, qui, à 83 ans, suit le développement du dossier dans les médias malgré ses traitements pour soulager un cancer de la moelle osseuse. Un service toujours offert à Rimouski, mais toujours aussi méconnu, bien que l'entreprise Taxi 800 de Rimouski offre le transport de personnes avec fauteuil électrique ou quadriporteur depuis plusieurs années, ce service demeure méconnu de la population. L'entreprise, qui compte sur une flotte de 42 voitures taxi pour assurer les déplacements sur le territoire, dispose de 4 véhicules de type mini-fourgonnette adaptés. Ces services sont offerts tous les jours, 24 heures sur 24. Les personnes en fauteuil roulant savent que nous avons des véhicules, mais ignorent que nous avons ce type de service pour eux. Nous sommes complémentaires du service de transport collectif adapté. De notre côté, on offre du transport individuel, explique le coordonnateur du service adapté chez Taxi 800, Stéphane Dionne. Un service pour transfert d'hôpital incluant la prise en charge du patient, les couvertures et le fauteuil gériatrique est aussi offert par Taxi 800. Le chauffeur accompagne le patient de sa chambre d'hôpital jusqu'à résidence. Par ailleurs, un accompagnateur peut accéder au véhicule en compagnie du patient. Ce service est disponible sur réservation seulement. Je vous rappelle que l'on parle de l'entreprise Taxi 800 de Rimouski. Cette femme-là est la fondatrice du groupe Parents pour toujours et c'est un groupe que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ici sur Canal M depuis toujours hein, finalement. Et elle va nous rappeler, Madame Baudry, puisqu'il s'agit bien de Marie-France Baudry, quelle est la mission de ce groupe-là et surtout ce qu'elle est et ce qu'ils sont encore en train de vivre, parce que je pense qu'ils sont pas mal au bout du rouleau et c'est pour ça qu'on voulait leur céder encore une fois la place sur les ondes de Canal M. Bonjour Madame Baudry.
Bonjour.
Alors, les parents d'enfants handicapés de plus de 18 ans apparemment réclament toujours du soutien du gouvernement. Le soutien n'arrive toujours pas et vous avez l'air d'être pas mal au bout du rouleau, c'est bien ça?
Bien, certainement. Financièrement, c'est vraiment pas facile. En plus des soins qu'on doit donner à nos enfants tous les jours et tout ça. Donc, le stress financier qui vient s'ajouter, pas évident, puis ça épuise beaucoup. Beaucoup de parents sont au bout du rouleau. Ça, je peux vous le certifier.
Ça représente combien de parents qui sont inscrits à Parents pour toujours en ce moment là et qui se soutiennent et qui...
En ce moment, il y a 650 personnes là, qui sont membres là, de notre page Facebook. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis on est un bon petit groupe. On était tous présents là, à Québec là, le 11 mai dernier avec M. François Paradis pour présenter notre pétition.
Bon, alors, je voudrais d'abord, dans un premier temps, que les gens comprennent bien, les auditeurs qui nous écoutent, quelle est la situation que vous vivez quotidiennement, Madame Baudry. J'espère que ça ne vous dérange pas.
Non, oui.
Donc, c'est ça. Alors, votre fils est majeur, et c'est surtout depuis, d'ailleurs, qu'il est majeur. Hein. Je pense qu'il a 25 ans, il est tétraplégique, c'est bien ça.
André, il souffre de spina bifida.
Ah, d'accord.
Spina bifida et une scoliose qui s'est ajoutée à ça et plusieurs malformations cardiaques majeures. Mm. Il a un retard de développement également, donc il ne parle pas, il communique par signe. Donc, ça, c'est un défi de plus quand il s'agit de trouver quelqu'un pour s'occuper de garder André. C'est vraiment de comprendre son langage gestuel, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un cas qui est quand même assez lourd. Oui, c'est ça. Oui.
Et c'est pour ça que vous êtes obligée d'être une maman à domicile, quoi. Je veux dire, être soignante et maman à domicile, c'est bien ça.
Exactement. Bon. Un retour au travail, c'est impossible. Il faudrait que je donne tout mon salaire à la personne qui s'occuperait d'André.
Hmm. Alors, donc là, vous êtes complètement laissée à vous-même. Est-ce que vous avez le droit à de l'aide à domicile, quelque chose?
On a droit, avec le soutien à domicile du CLSC, on peut avoir de l'aide pour des soins, des choses comme ça. Là, moi, personnellement, je n'utilise pas ces services-là. Je suis à la maison avec André, donc c'est moi qui lui fais tous ses soins. Mm-hmm. Donc, il y a du soutien à domicile qui est disponible avec les CLSC, mais c'est sûr que les situations sont différentes hein, d'une famille à l'autre.
Ça, hein.
Oui, c'est ça. Il y a des endroits, il y a des gens qui ont un bon soutien, il y en a d'autres qui n'ont pas un bon soutien du tout. Là, c'est vraiment beaucoup de situations différentes. Mais il y a un manque de services là, criant également. Là.
Mais c'est ça, parce que là, écoutez, j'ai envie de vous poser la question, mais vous faites comment financièrement en ce moment, Madame Baudry, si vous
c'est
ne travaillez plus?
Évident. C'est vraiment pas évident. Je peux vous dire que des macaronis puis des saucisses à hot dog, on en mange. On en mange du steak, on n'en mange pas.
Donc, vous aider comment en ce moment-là? Parce que j'imagine que parmi les 600 personnes qui vivent la même chose que vous, il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que vous. Oui. Concrètement, en ce moment, si le gouvernement ne peut rien faire, nous, on peut vous aider comment? On peut vous envoyer de l'argent? On peut vous envoyer, je ne sais pas, de la nourriture? Non, mais écoutez...
Il y a beaucoup de parents qui doivent faire des levées de fonds hein,
oui.
Pour arriver à combler des besoins c'est ça, ils n'ont pas de ressources nulle part ailleurs. Et le gouvernement n'est pas là pour ça non plus. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont obligés de faire des levées de fonds, que ce soit pour acheter de l'équipement, pour toutes sortes de raisons.
Oui.
Là, vraiment, ça...
Oui. Mais si en plus, il faut en faire pour simplement manger à sa faim, c'est terrible. Ah, je vous ai perdu, Madame Baudry. Marie-France?
Oui, je vous entends.
Ah, alors vous m'entendez, mais il y a des fois où je vous perds. Alors là, je n'ai pas entendu votre réponse, donc les auditeurs non plus.
Ah, OK. OK. Avoir recours aux banques alimentaires, c'est quelque chose qui est très difficile,
Mais
là,
oui.
vraiment, pour le moral aussi,
Mais
hein?
oui, mais oui, mais oui, mais oui. Là, comme si
Oui.
ce n'était pas assez, franchement.
Exactement. Je veux dire, nous, ce qu'on dit, c'est que les familles d'accueil sont soutenues et c'est très bien, font un travail extraordinaire, les familles d'accueil, c'est bien, mais nous aussi, les familles naturelles, on fait un travail qui est un travail d'amour, mais c'est un travail quand même et on doit être soutenues.
De
On
toute
doit être
façon,
soutenues.
absolument, dès l'instant qu'on n'est plus en mesure de pouvoir aller gagner de l'argent à l'extérieur,
Oui.
quelle que soit la raison, je veux dire, ça, on a besoin d'aide, enfin, oui, ça me...
Oui,
Parce que
exactement.
là, il y a eu, hein, effectivement, sur le plan gouvernemental, ils ont annoncé bon, plusieurs développements, etc. Mais c'est toujours pour des enfants qui sont mineurs, c'est bien ça le problème, hein.
Oui, c'est ça. Il y a des programmes pour les enfants mineurs. Il y a de l'aide qui existe et aussi les parents ont les allocations familiales aussi qui s'ajoutent à ça. Des prestations spéciales pour enfants handicapés. Mais à 18 ans, toutes ces aides-là tombent et on est vraiment laissés à nous-mêmes, là, complètement, complètement.
Toutes les démarches que vous avez entreprises jusqu'ici, j'imagine qu'elles sont nombreuses. Quelles sont les plus récentes que vous avez entreprises, Madame Baudry?
Les plus récentes, ben c'est évidemment notre pétition qui a été déposée. Là, on a l'appui complet, total de M. François Paradis et de la CAQ là-dedans et on en est très heureux. Il nous soutient complètement, il nous accompagne là-dedans. On a déposé notre pétition le 11 mai et puis maintenant, ben M. Paradis nous a obtenu une rencontre là, avec Mme Charlebois et M. Barrette. Et eux, ils ont eu une ouverture à travailler avec nous pour trouver une solution et on doit les rencontrer, ben rencontrer Mme Charlebois de nouveau à la fin de l'été. On n'a pas encore la date précise,
Ouais, mais alors.
mais on va la rencontrer de nouveau à Québec à la fin de l'été et puis il y a d'autres choses qui vont se développer.
Bon.
On espère avoir un soutien financier qui va arriver très, très, très bientôt.
Bon, bah écoutez, Madame Baudry, je vais vous souhaiter un bon courage, mais mon Dieu, que j'ai l'impression que ce sont des mots, des piètres mots, finalement, quoi, par rapport on voudrait toujours pouvoir en faire plus, hein.
Oui, mais déjà de m'inviter à l'émission et de nous donner une voix à nous, là, c'est vraiment très, très apprécié. C'est une grande aide. Et puis vos auditeurs peuvent nous supporter
Oui.
en venant visiter notre page de Parents pour toujours qui est sur Facebook. On va avoir un
D'accord.
site Internet bientôt, on ne l'a pas encore. Mais
Donc,
venez nous
parents
voir
pour
sur Facebook.
toujours, d'accord.
Oui.
Et si des gens qui nous entendent veulent vous aider, je ne sais pas moi, physiquement, psychologiquement, bénévolement, pour vous apporter de l'aide, s'ils veulent, ils passent par Facebook, c'est ça?
Oui,
D'accord.
ils peuvent nous envoyer un message toujours sur la page de Parents pour toujours, là, sur Facebook. Il n'y a aucun
D'accord.
problème.
Bon,
Oui.
bah écoutez, Madame Baudry, bon courage, un beau bonjour par signe à André.
Oui,
Aussi.
merci.
Mais je vous en prie,
Merci.
Marie-France. Et puis, je vous souhaite une belle journée et on va continuer de vous soutenir et de vous supporter. Ça, c'est certain, quoi qu'il arrive, comptez sur nous.
Ben, merci, c'est très apprécié. Merci et bonne journée à
Mais
vous et
je
à tout
vous...
le monde.
D'accord, Madame Baudry, au revoir et bonne journée.
Merci, au revoir.
Par actualité nationale, on se déplace en Ontario. Qu'ils soient malvoyants, en fauteuil roulant ou aux prises avec un retard de développement, tous les enfants peuvent s'amuser au parc de Sacha à Lorignal, dans l'Est ontarien. C'est d'après un papier trouvé sur le site, pardon, iciradiocanada.ca. Alors, c'est un parc donc pour tous les enfants dans l'Est ontarien, même ceux qui présentent un handicap. Inauguré vendredi, ce parc a vu le jour grâce au soutien des membres de la communauté. Et son ouverture représente la consécration de 3 ans de travail pour ses promoteurs. Le projet a été porté à bout de bras par Jason Chénier et Jacqueline Standing en l'honneur de leur fils, Sacha, décédé le 9 juin 2014 des suites de complications liées à l'épilepsie. Sacha était né avec un handicap physique. Pendant plusieurs années, c'était notre rêve de se doter d'un endroit qui était accessible et inclusif à l'égard de tous les enfants, peu importe leur handicap ou les défis qu'ils doivent affronter, expliquent les deux parents. Le parc de Sacha est doté de jeux sensoriels, de même que de panneaux permettant aux enfants avec des difficultés langagières de communiquer leurs besoins. Il y a aussi une glissade et une balançoire accessibles aux personnes en fauteuil roulant. De plus, on n'y retrouve aucune structure de jeu élevée. Alors, la première phase du projet a coûté près de 400 000 $. Si le parc de Sacha a pu voir le jour, c'est en grande partie grâce au soutien de généreux donateurs, y compris la famille, mais aussi de membres de la communauté qui ont organisé des activités de financement. C'est un parc assez dispendieux. Sans l'appui de la communauté avec les levées de fonds, les dons et les subventions, ça ne serait pas possible de bâtir un parc de même, affirme M. Chénier. Des citoyens ont aussi contribué de leur temps pour construire le parc lors d'une journée de construction communautaire en septembre dernier. C'était d'après un reportage du journaliste Denis Babin. Le groupe français Femme Actuelle nous présente Aider, le nouveau magazine pour les aidants. C'est en France, bien évidemment, mais on espère que c'est un journal qui sera également publié ici, du moins envoyé ici, comme le sont après tout tous les Paris Match et autres niaiseries du genre. Alors pourquoi pas aider? Bon, non, mais quand je dis niaiserie, je vous fais rire, mais c'est pas... Je lis Paris Match, alors. Alors, on recense à ce jour 11 millions d'aidants et 16 millions de bénévoles en France, un nombre certainement sous-estimé, car nous sommes tous potentiellement des aidants. Par essence, un aidant est celui qui aide un proche, famille, ami, confronté à la maladie, au handicap, au vieillissement ou à tous les aléas de la vie. Les proches jouent un rôle premier, essentiel, central dans l'accompagnement de la personne malade au quotidien. Ils et elles, car ce sont bien souvent des femmes, le font de multiples manières d'ailleurs, non seulement en prodiguant une aide matérielle, une attention, une vigilance, mais aussi en s'occupant des démarches administratives, en organisant l'intervention des professionnels, en résolvant des problèmes de gestion et de budget. La mission des aidants est capitale dans la prise en charge de la maladie. Nous en parlions un petit peu plus tôt d'ailleurs avec Madame Baudry. Mais trop souvent, ils s'épuisent avec des conséquences non négligeables sur la santé physique et psychique, faute de trouver du soutien, explique Fabrice Xil, docteur en philosophie et responsable du soutien à la recherche et à l'innovation sociale à la Fondation Médéric Alzheimer. Alors, dans le numéro 1 de Aider, en kiosque à partir du 15 juin, donc d'aujourd'hui, vous trouverez au sommaire une réponse philosophique d'Anne-Emmanuel Monnier, qui est une enseignante à la question « Aujourd'hui, autrui est-il mon semblable ?» Un reportage sur les blouses roses, ces bénévoles qui se mobilisent dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux patients. Un débat passionnant sur la désobéissance civile et que risque-t-on à porter secours à un migrant ? Des escapades en pleine nature pour tout le monde, des conseils judicieux pour ne pas craquer, un dossier santé pour mieux prendre en charge la douleur, psychologie, portrait, médecine douce, témoignages, informations, pratiques, reportages, repères administratifs et juridiques. Le beau magazine, conçu sur le principe du MacBook, propose des clés de décryptage et des mots qui traduisent l'expérience vécue pour comprendre et mieux aider l'autre, indispensable pour souffler. En attendant peut-être d'avoir votre revue entre les mains, peut-être aller sur le site internet www.aider.fr. Le Centre de référence du Grand Montréal, le CRGM, publie la 8e édition du répertoire des ressources alimentaires pour personnes à faible revenu du Grand Montréal. La pauvreté n'est pas une figure d'esprit ou un concept abstrait. Preuve en est la demande de référence pour des ressources alimentaires par des personnes aînées, des familles et des personnes seules de tout âge est toujours aussi importante au centre de référence. Voilà pourquoi nous avons réédité ce répertoire extrêmement utile pour les citoyens, mais aussi pour les intervenants sociaux et les organismes sociaux communautaires, a indiqué Mme Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal. Comme dans les éditions précédentes, il contient toutes les informations utiles et la description détaillée des services classés à l'aide de sous-chapitres et d'index. De plus, le répertoire compte maintenant plus de 400 organismes qui offrent des services d'aide alimentaire aux personnes à faible revenu sur le territoire du Grand Montréal. Il faut également mentionner une nouveauté, soit l'intégration de capsules d'information au début de chaque chapitre, mettant en lumière certains outils complémentaires, a expliqué Mme Brigitte Gagnon-Boudreau, coordonnatrice de ressources et éditions au CRGM. Le design a été complètement repensé pour le rendre plus attrayant, mais surtout plus pratique. En effet, en plus d'une nouvelle couverture, le format a été modifié et les éditions françaises et anglaises ont été séparées, offrant un format plus facile à transporter et à manipuler. Dans cette édition 2017, le Centre innove, car pour une première fois de son histoire, le répertoire sera également disponible gratuitement en format PDF sur le site web, afin de permettre un accès toujours plus grand aux ressources. Alors, pour vous procurer l'édition imprimée, vous pouvez venir nous visiter à nos bureaux ou remplir et faire parvenir le bon de commande qui se trouve sur le site web du CRGM au www.info-référence.qc.ca. Parlons prévention du spina bifida et alimentation pour une grossesse et un bébé en santé dans le cadre du mois national de sensibilisation au spina bifida et à l'hydrocéphalie. Donc ça, c'est tout le mois de juin. Nous organisons, ça l'association, nous organisons, disent-ils, une conférence intitulée « Parlons prévention du spina bifida et alimentation pour une grossesse et un bébé en santé ». Elle sera animée par Mylène Duplessis-Brochu, nutritionniste à la Fondation Holo. Nous en parlions hier à la même émission, peut-être avez-vous déjà entendu cette entrevue, mais je voulais vous rappeler cette conférence fort intéressante qui va se dérouler le 20 juin 2017. Elle se tiendra en live sur Facebook de 12h à 12h45. Alors, l'association pour le spina bifida et l'hydrocéphalie vous invite à y participer en vous rendant sur la page Facebook de l'ASBHQ, autrement dit www.facebook.com/ASBHQ. Voilà, ainsi s'achève ces Par Actualité du 15 juin. Je voudrais remercier toute mon équipe et notamment Mathieu Tessier qui était aujourd'hui dans son aquarium à la régie. Et puis merci à vous toutes et vous tous d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à lundi, 11h30.